Merci, frère Perry. Je pense qu'on devrait tout d'abord dire, en tant que participant à ce débat, que frère Richards, l'évêque et son conseil ont fait un excellent exposé. J'aimerais aussi dire que ce que nous avons appris de frère Oakes et de frère Cook, ainsi que de notre président bien-aimé, a été une expérience merveilleuse. Alors, nous sommes reconnaissants de pouvoir participer à ce débat, et la première question que j'aimerais poser est celle-ci. En réfléchissant à ce que nous venons de voir avec le conseil de paroisse, quelles sont certaines des choses que vous avez trouvées particulièrement bien faites? Sœur Beck?
Eh bien, je pense qu'il a été très bien illustré, le verset de Doctrine et Alliance, la section 88, le verset 122. Je dis cela parce que tout le monde peut emporter les Écritures chez soi, et cela permet d'évaluer ce qui s'est passé. Désignez parmi vous un instructeur, et que tous ne soient pas porte-parole en même temps, mais qu'une personne parle à la fois, et que tous écoutent ce qu'elle dit, afin que lorsque tous ont parlé, tous soient édifiés par tous, et que chacun ait un droit égal. J'ai vu cela en action dans cette réunion de conseil, et cela engendrait un merveilleux sentiment d'édification.
Très bien. Quelqu'un d'autre? Frère Holland?
Le président Manson l'a présenté. Puis frère Oakes et frère Cook ont tous les deux insisté sur ces merveilleux chapitres d'introduction, dont l'un d'eux se concentre sur la famille. J'ai pensé que ce conseil a bien fait de toujours revenir aux parents, plutôt que de demander immédiatement quelle activité une organisation pourrait fournir, ou une auxiliaire, ou le collège, bien qu'on ait besoin d'en parler en partie. Ils sont revenus à maintes reprises, régulièrement, je les observais, et j'ai compté le nombre de fois. Ils sont revenus à maintes reprises aux parents, et à la manière dont ils pouvaient impliquer les parents et fortifier le foyer. J'ai trouvé ça formidable.
J'ajouterais que pendant le... J'ajouterais que pendant tout le conseil, ils se sont constamment concentrés sur les personnes, pas sur les programmes. Et ils prenaient soin des personnes et des familles. Je pense que c'est l'esprit dans lequel est conçu le nouveau manuel.
Oui, je pense que c'est très clair. Leur niveau de participation favorisait la révélation. Et le suivi était aussi pour moi un grand moment. Il y avait des choses, des idées. Mais le principe du suivi était si évident que ces idées se transformeront en actes.
Je pense que nous avons vu un très bon exemple de la façon dont un évêque peut diriger, mais sans dominer ce qui se passe dans un conseil. L'évêque a davantage écouté que parlé. Et franchement, j'ai assisté à pas mal de conseils de paroisse et de pieux où le dirigeant de la prêtrise dit « Voilà le problème. Voilà ce que nous devrions faire. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et personne ne dit rien, et bien pas étonnant. Et là, nous avons un évêque qui présente le problème et en explique les facettes. Il pose une question pertinente et inspirée, puis il écoute plus qu'il ne parle.
Ce sont d'excellents points. Quand nous réfléchissons au conseil de paroisse et à ce nouveau manuel, quel en est l'objectif de tout cela? Qu'essayons-nous d'accomplir en tant qu'Église? Et en quoi cela s'applique-t-il à un conseil? Qu'essayons-nous de faire?
Si je ne vous interromps pas trop tôt, je pensais que frère Oakes avait abordé ce point dès le début de sa remarque préliminaire, à savoir que nous sommes engagés dans l'œuvre du salut. Et nous tentons de ne pas faire trop de divisions de responsabilités, de ne pas faire trop de catégories, de ne pas créer des lignes de division et des frontières qui nous rendent difficile le passage ou la traversée. Il est allé directement aux déclarations prophétiques, les déclarations scripturaires, selon lesquelles nous occupons de l'œuvre du salut. J'ajouterai rapidement que pour moi, c'est une des perles du chapitre 5. J'anticipe un peu peut-être le reste du débat, mais le chapitre 5, intitulé « L'œuvre du salut », intègre l'œuvre missionnaire, le maintien des convertis dans l'Église, l'œuvre du temple, l'enseignement. Il me semble que c'est symboliquement ou littéralement un immense pas en avant dans ce manuel.
Frère Ballard, c'est ce à quoi j'aspire. En observant ce conseil, tout semblait parfait. Et je me suis demandé si certains d'entre vous, nous tous qui avons observé ce conseil, n'ont pas pensé Ce n'est pas comme ça chez nous. Nous n'agissons pas avec perfection. Et ce que j'ai aimé dans l'exemple fourni par ce conseil, c'est que nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur la question de savoir si c'est parfait. Ils avaient les procédures en place pour avoir un bon conseil. C'est le modèle qu'ils nous ont présenté. Ils étaient unis. Ils se concentraient sur le ministère. Ils avaient un but à l'esprit.
C'est, je pense, la caractéristique d'un grand dirigeant dans quelque organisation que ce soit. Quelqu'un qui comprend qu'il y a un problème, mais qui a la capacité d'utiliser toutes les ressources que le Seigneur a fournies. Et nous entendons fréquemment dire que les évêques sont surchargés. Et c'est le cas s'ils ne prennent pas le temps de comprendre ce principe. S'ils comprennent le principe de la fonction du conseil de paroisse, ils ont pas mal d'aide disponible. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent encourager le dialogue. Ils peuvent susciter les avis, l'inspiration, la révélation. Elle viendra des hommes et des femmes et portera sur les problèmes pour lesquels l'évêque se sent dépassé. Je trouve que l'évêque a bien agi dans ce conseil. Une des autres choses que nous devons retirer de cela, je pense, c'est que la présidence de la société de secours est un conseil. La présidence de l'école du dimanche est un conseil. Chacune des personnes qui étaient présentes va retourner à son propre conseil, espérons-le, et parler des choses qui préoccupaient le conseil de paroisse. Et dans ce cadre, si elles le font, reviendront-elles, pensez-vous, avec encore davantage de propositions et de meilleures idées?
C'est l'œuvre du salut, et le conseil est le cadre propice à l'inspiration. Voilà pourquoi l'unité et la confidentialité sont si importantes. Nous ne pouvons pas recevoir l'inspiration si nous ne sommes pas unis et si nous ne respectons pas des confidences sacrées.
Vous savez, il m'est venu à l'idée, Frère Ballard, que cela doit aller dans les deux sens. Il est sûr que ce conseil ne peut pas accomplir tout ce qui lui a été assigné. S'ils essaient de faire tout cela par eux-mêmes, ils vont probablement être surchargés comme l'était l'évêque. Alors il faudra qu'ils se réunissent avec leur propre conseil. Il faudra qu'ils diffusent ce concept. C'est excellent pour la participation. J'ai aussi aimé ce sur quoi a insisté Frère Cook dans sa remarque préliminaire. C'est-à-dire qu'il faut de la planification, de la préparation avant de venir. Et tout ne peut être résolu ailleurs, doit l'être ailleurs ou avant. Et nous commençons à cerner le problème et à repartir la responsabilité. Souvent, cela se fera par un conseil ou un autre que celui de la paroisse. Pas seulement au niveau d'un conseil, comme celui d'une présidence ou d'un épiscopat, mais le principe était clair dans le modèle que nous avons vu lorsque l'évêque Frère Charles a dit « Je vous ai donné la tâche de réfléchir à quelque chose ». Donc, ils recevront aussi individuellement de l'inspiration avant le conseil.
Personne ne connaît toutes les réponses à chaque question. Mais lorsque le système des conseils fonctionne, nous avons la possibilité de faire appel à l'inspiration des différents membres du conseil et même des membres de la paroisse. Si nous procédons correctement, chacun reste attentif et peut entendre quelque chose en dehors de sa réunion de présidence, à l'occasion d'une visite d'instruction au foyer ou d'enseignement, qui résout le problème sur lequel se penchait le conseil.
Frère Ballard, je pense aux nombreux endroits où je me suis rendu dans le monde et j'ai parcouru, comme vous, le monde entier. En étudiant ce que le Seigneur attend des conseils et par rapport à l'exemple qui nous a été donné, je pense que la capacité de se réunir en conseil à la façon du Seigneur va à l'encontre de ce qui se fait dans les cultures du monde. C'est difficile dans les familles et dans les foyers. C'est difficile pour tout le monde. Mais quand nous acceptons l'évangile de Jésus-Christ et que nous faisons des alliances, il devient notre modèle. Et nous commençons peu à peu à essayer de nous adapter à sa culture, à ses voies et à son modèle quant à la manière de parler et de communiquer entre nous. Je ne pense pas que quiconque devrait être découragé s'il n'est pas parfait dans sa façon de tenir conseil à la manière du Seigneur. À chaque réunion de conseil à laquelle je participe dans ma propre présidence, j'essaie de me demander comment puis-je avoir un conseil meilleur que celui de la semaine dernière? Quelle est la chose dont je vais assumer la responsabilité pour améliorer cela avec mes conseillères? Et nous avons fait mieux cette semaine que la semaine dernière. Et nous nous sommes améliorés ce mois-ci. Et nous cherchons à obtenir un nouveau don spirituel, pour ainsi dire. C'est un don spirituel du Seigneur de savoir comment travailler à sa manière. Nous ne devons pas nous décourager. Nous recevons ligne sur ligne et nous progressons pas à pas. Nous nous aidons les uns les autres à développer ce don.
Frère Gonzalez, parfois l'évêque se sent comme ça parce qu'il est l'évêque, qu'il doit tout savoir.
Parfois, et quelquefois, on peut trouver des évêques qui suivent ce principe. Aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est un exemple parfait pour nos auditeurs. Lorsque l'évêque a dit, et j'aime vraiment ce qu'il a dit, « Que pensez-vous que nous puissions faire ?» Après cette question, il a écouté leurs opinions, ce qu'ils en pensaient, et il s'est exprimé après avoir écouté les membres du conseil. Ce n'est pas tout. J'ai trouvé formidable qu'il ait aussi, ainsi que certains de ses conseillers, fait l'éloge de leurs commentaires. C'est très important dans toutes les cultures. Et c'est toujours une bonne chose de complimenter les autres pour leurs contributions et leurs bonnes idées. Cela apporte unité et construit aussi Sion. Et bien entendu, cela favorise la révélation et l'inspiration. Les personnes se sentent plus à l'aise pour faire part de leurs meilleures idées. Et cela ouvre la porte à un plus grand déversement de l'esprit.
Je pense que nous entretenons à tort la notion que chaque élément de la révélation que la paroisse doit venir par l'intermédiaire de l'évêque, parce qu'il détient les clés. Il doit les reconnaître et s'en servir, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est le seul canal de la révélation. Ainsi, dans ce conseil, dans la mesure où règne un sentiment d'unité et que l'on agit sous l'influence de l'esprit, les contributions de tous les membres du conseil ajoutent des éléments à l'inspiration. Ainsi, le conseil ne décide pas. Ça ne veut pas dire qu'il participe simplement au processus de décision. C'est un modèle inspiré que l'évêque, en vertu des clés qu'il possède, doit diriger. Mais il ne reçoit pas chaque iota et chaque trait de lettre de la révélation.
Parfait. Bon exemple.
Une des questions culturelles que nous connaissons tous et qui a été abordée sans détour, et cela n'était pas prévu, mais de manière spontanée, par inspiration, c'est que les femmes ont pris la parole. Ces femmes étaient totalement impliquées. Nous n'avons pas toujours été aussi disposés, aussi enclins que nous le devrions, à écouter les femmes qui siègent dans le conseil. Pour moi, ces femmes étaient fantastiques. Et j'ai participé à ce réunion de conseil avec Sœur Beck pour savoir combien elle est formidable. Alors, si jamais quelqu'un pense que cela pose un problème, surmontons-le. Il nous faut l'aide des femmes. Puis-je ajouter quelque chose? Ce principe dont on parlait s'applique au-delà des conseils de paroisse et même de l'administration de l'Église, parce que ces principes peuvent être utilisés dans la vie de famille. Le fait d'écouter les sœurs, les épouses et les enfants fait partie de ces principes. Cela apporte l'unité dans l'Église et la cohérence dans la manière d'agir, quel que soit l'endroit.
Le système du conseil fonctionne depuis le conseil de la première présidence au collège des 12 apôtres, qui est un conseil, aux 7 présidents des 70 qui forment un conseil, aux 70 qui font partie des différentes présidences interrégionales qui forment un conseil. Ce système fonctionne dans le pieu où il y a un conseil, dans la paroisse, dans le collège et au foyer. Et le dirigeant du conseil, quel qu'il soit, doit être disposé à écouter. Je pense qu'il s'agit là d'une des grandes caractéristiques d'un dirigeant de conseil qui absorbera les ressources et qui acceptera l'aide disponible s'il est disposé à écouter les recommandations des personnes qui reçoivent la révélation, et cela indépendamment du fait qu'ils soient à la tête de l'organisation.
Si l'on réfléchit à l'exemple donné par ce conseil, je crois que le don de discernement s'exerce de manière plus efficace lorsque nous écoutons que lorsque nous parlons. Et donc, si l'officier président se met dans une position où il guide et dirige sans dominer, alors il est davantage susceptible de recevoir le don de discernement en ce qui concerne ce qui se produit.
Cela s'applique à chaque membre du conseil. Il est possible que même une sœur ou un autre membre du conseil ait tendance à dominer la conversation. Alors, le dirigeant du conseil doit en enseigner l'objectif. Et nous avons une belle démonstration, je pense, dans ce que nous venons de voir.
Fabelat, je ne veux pas en faire trop, mais je pense vraiment qu'un des points sur lequel nous devons insister, que nous devons enseigner dans l'Église au cours des nombreux mois à venir, c'est que nous devons venir en aide aux évêques surchargés. C'est un des buts de la discussion que nous sommes en train d'avoir. C'est certainement un des buts du manuel. Et j'étais ravi de cet échange d'idées. Je ne sais pas qui a pensé ou si c'était spontané, mais est-ce que c'était Sœur Madsen qui était malade? Quelqu'un était malade, quelqu'un avait la jambe cassée, quelqu'un avait quelque chose.
Ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes.
Ils avaient des problèmes, en effet. Mais deux ou trois personnes étaient allées la voir avant l'évêque. Et l'évêque dit à ses conseillers, allons-y, voyons comment elle va. Mais c'était formidable que tout le monde dans la paroisse n'ait pas attendu de voir, par exemple, si l'évêque allait être le premier à y aller, ou sans quoi je ne fais rien avant qu'il soit allé. Personne n'aurait pensé cela, mais c'est arrivé si spontanément que j'ai pensé, super, voilà un moyen d'aider un évêque débordé et de partager les bénéfices, de partager les bénédictions.
Frère Ballard, on nous a enseigné aujourd'hui quelque chose qui me semble très important. Cette idée qu'en tant que présidence, on peut prendre soin des choses dont les présidences ont la responsabilité. Un jour, j'ai rencontré une présidente de la société de secours. Elle attendait sur le trottoir, à l'extérieur d'une maison, une petite maison modeste, et elle se tordait les mains. J'allais me rendre dans cette maison, mais elle a dit, « Je ne sais pas quoi faire, parce que je ne sais pas quelle autorité j'ai d'aider cette famille. » Il se trouve que les membres de cette famille étaient vraiment dans le besoin. Ils avaient faim, ils avaient froid, ils n'avaient pas d'eau, et elle n'était pas sûre de ce qu'elle pouvait faire. Et j'ai dit, vous êtes présidente de la société de secours. Réfléchissez un instant à ce que vous-même et vos conseillères pourraient faire immédiatement pour soulager cette famille. Puis, réfléchissez au rapport que vous ferez à votre évêque. Au fur et à mesure que je l'aidais à comprendre ce qu'elle pouvait faire avec l'aide de ses conseillères, un monde totalement nouveau s'est ouvert à ses yeux. Ses fardeaux étaient plus légers et elle n'allait pas se débarrasser d'un problème sur l'évêque. Elle commençait déjà à trouver une solution qui pouvait devenir une grande bénédiction pour une famille et pour les membres du conseil de paroisse.
C'est merveilleux quand la présidente de la société de secours ou la présidence des jeunes filles ou la présidente de la primaire arrive au conseil et dit à l'évêque, voici mon rapport. C'est ce que nous avons trouvé et c'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Une partie du fardeau était automatiquement ôtée des épaules de l'évêque.
Oui, il aura du mal à s'en remettre.
Je pense qu'il faut aussi être prudent. C'est-à-dire que dans notre désir juste d'œuvrer avec zèle dans ses conseils, nous ne pouvons pas enfreindre les principes d'entraide que nous essayons d'enseigner. Tout ce que nous faisons doit promouvoir l'autonomie et nous pouvons agir trop rapidement et en faire trop, ce qui aurait pour résultat de rendre les gens dépendants au lieu de les rendre autonomes.
Excellente remarque. Maintenant, je ne sais pas si vos frères avaient jamais eu l'expérience que j'ai eue dans le monde quand des gens m'ont posé des questions. Est-ce qu'on vous a déjà posé
jamais,
une question?
Non, jamais toute ma vie. J'attends toujours qu'on m'en pose une, d'ailleurs.
Alors, je vous en poserai une. Vous a jamais t'on posé une question dont la réponse se trouve dans le manuel?
Presque toujours. En fait, si ce n'est pas trop divulguer un secret, le secrétaire de la première présidence, notre secrétaire de la première présidence, a dit un jour qu'environ 80% des questions qui arrivent même à la première présidence ont leur réponse dans le manuel. La réponse a déjà été fournie. La vérité est que nous ne connaissons pas suffisamment nos livres.
Alors, nous allons nous conformer au principe de responsabilité, frère Bednar, en matière d'entraide dont vous venez de parler. Nous n'allons pas nous en écarter. Nous allons rester ancrés à l'endroit où se trouvent les principes de base de l'Église. Frère Gonzalez, est-ce que c'est une bonne idée?
Oh, c'est une excellente idée. Oui. Il faut que nous connaissions bien le manuel. Quelqu'un a dit que si l'on veut bien garder un secret, il suffit de le mettre dans un manuel. Alors nous espérons que ce ne sera pas le cas pour ces manuels-ci.
Nous espérons aussi tout au moins au nom des 12, et je pense au nom de toutes les autorités générales, que nous n'entrerons jamais dans le bureau d'un président de pieu après que ces manuels ont été livrés et que nous ne les verrons pas en haut d'un meuble. Nous espérons qu'ils seront sortis et utilisés.
À l'international et quelquefois dans d'autres endroits où l'Église grandit, un des défis est de ne pas disposer de modèle sur la façon de faire les choses. Le manuel, c'est ce qui se rapproche le plus d'un modèle. Alors si nous ne sommes pas sûrs de la façon de faire quelque chose, parce que nous n'avons pas de modèle devant nous, nous avons le manuel.
Ce manuel contient la doctrine et les principes et directives pour parvenir à un jugement inspiré. Ce n'est pas un manuel du personnel. Ce n'est pas quelque chose où l'on va trouver toutes les réponses. Il contient des principes, la doctrine et des directives de base. Et étant donné le nombre de personnes dans une paroisse et dans un conseil de branche qui auront accès, c'est une bénédiction qui s'étend aux personnes et aux familles.
Frère Ballard, j'apprécie votre idée que chacun va étudier le manuel en entier. Il n'y a pas de meilleure formation que d'avoir une idée d'ensemble. Cela élimine notre vision limitée des choses et cela nous permet de voir ce que le Seigneur a en vue pour nous tous. Ce que cela a à voir avec la famille, la direction vers laquelle il veut que chacun se dirige, la manière dont l'évêque travaille et ce qu'il a besoin de faire, et finalement quel est notre rôle. Il y a un chapitre qui concerne les choses pour lesquelles nous devons être à l'unisson, la manière dont nous pouvons faire des adaptations. Et ce sont des mots importants choisis avec soin. Faire des adaptations ne nous donne pas le droit de recréer l'Église du Seigneur. Quelquefois, nous voyons tellement de créativité qu'on ne reconnaîtrait même pas l'Église du Seigneur. Il est donc important de suivre les directives sur la manière d'adapter. Parce que nous n'avons pas la permission de recréer l'Église, ni de redéfinir des principes qui ont été approuvés par la première présidence. Nous avons la permission de faire quelques adaptations si nécessaire, mais en respectant les directives.
Et cette adaptation se fait par le conseil et à l'aide de la prière, en recherchant et en obtenant l'esprit pour savoir ce qui est approprié et faisable. Est-ce qu'il est possible de faire?
Et quel est l'objectif?
Qu'est-ce qui est faisable dans notre situation? Je veux répéter cependant quelque chose pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne pense pas que nous devrions demander à nos auditeurs de s'asseoir et de lire le manuel d'un bout à l'autre et d'un seul trait. Pourquoi ne pas l'aborder un chapitre à la fois et puis avancer de cette manière jusqu'à l'avoir entièrement lu? Et personne ne se sentira écrasé et puis ce sera l'occasion d'en parler d'une manière vraiment constructive. Qu'avons-nous vraiment appris dans le chapitre 1? On en reparlerait dans le cadre d'un conseil. Et je pense que dans 6 mois, les conseils de l'Église pourraient fonctionner, toute proportion gardée, au niveau là où la première présidence et le collège des 12 apôtres, grâce à l'inspiration des cieux, ont amené l'Église et ses manuels. Alors je pense que la démonstration que nous avons faite aujourd'hui est excellente. Pour conclure, frère Roland, après toutes vos années d'expérience en matière d'éducation, ainsi que votre service dans l'Église, quel commentaire aimeriez-vous faire en guise de conclusion à ce débat?
Eh bien, vous avez parlé du mot éducation. J'aimerais aborder ce sujet. Dans l'Église, nous n'utilisons pas les formes de motivation et d'encouragement qui sont courantes ailleurs dans le monde. Nous n'obligeons personne à faire quoi que ce soit. Nous ne rémunérons pas les gens. Nous ne menaçons pas de les renvoyer. Quand vous pensez à la vie en dehors de l'Église, que ce soit dans le monde des affaires, dans le domaine public ou n'importe où ailleurs, la plupart de ces formes de motivation ou de ces moyens ne sont pas en accord avec les principes de l'Évangile. Et ce n'est pas de cette façon que nous agissons dans nos conseils, dans la famille, dans les collèges, dans les paroisses, dans les pieux. Ce que nous faisons principalement, c'est enseigner. Nous sommes des instructeurs par l'exemple et par la parole. Joseph Smith, le prophète, a dit un jour, « Quand un homme agit par la foi, il agit par la parole. » Et quand Dieu a dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » C'est une merveilleuse motivation, et elle se trouve dans ces manuels, présenté brillamment dans les chapitres du début du manuel, y compris l'œuvre du salut. le chapitre sur l'œuvre du salut. C'est l'enseignement, un meilleur enseignement, un enseignement puissant, un enseignement inspiré, un enseignement humble. C'est ce qu'a fait le Sauveur. C'est la motivation et la capacité qu'il avait. Il n'a pas utilisé les voies du monde, et nous ne pouvons pas non plus. Merci d'avoir utilisé ce mot d'éducation, frère Ballard. Je ne m'entendrai pas à cela, mais je pense que nous pouvons tous essayer d'être de meilleurs instructeurs, et c'est intégré admirablement dans ce manuel.
Merci. Frère Bednar.
Si on m'accordait mon cher désir, j'aimerais retirer du vocabulaire des membres de l'Église le mot « réunion ». Nous n'avons pas parlé d'une réunion de conseil de paroisse. Nous avons parlé d'une expérience de révélation avec les membres du conseil de paroisse. Et si les membres du conseil, si les membres de famille, lorsqu'ils se réunissent, se disaient « Je vais me préparer à participer à une expérience de révélation avec ma famille au lieu d'aller à une réunion. » Une expérience de révélation avec les membres du conseil de paroisse. Je pense que nous nous préparions et agirions bien différemment. Dans ces derniers jours, étant donné les forces adversaires et des ténèbres, aucune personne dans une famille ou dans une paroisse ne sera le seul canal par lequel toutes les réponses arrivent. Alors tout cela concerne la nature spirituelle de cette œuvre et la recherche de l'inspiration pour faire ce que le Seigneur veut que nous fassions.
Merci. Sorbeck?
Je pense que nous avons une occasion nouvelle, une nouvelle bénédiction de notre Père Céleste, de décider de ce qui va avoir d'importance. Qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? Est-ce que cela va être les réunions? Est-ce que cela va être les chiffres? Est-ce que cela va être la quantité de rapports que nous avons distribués? Ou est-ce la compassion que nous allons considérer comme importante? Le fait que nous accordons de la valeur à la compassion, à l'amour, au service. Ce que j'ai vu dans ce conseil de paroisse, c'est que nous voulons savoir comment vous servez. Comment vous remplissez votre ministère? Qui s'est préoccupé de prendre soin des autres? Qui a fortifié? Qui a béni? Qui a édifié? C'est ce qui compte. Nous avons l'occasion de prendre un nouveau départ en nous basant sur ce qui compte vraiment. Et le Seigneur veut que nous accordions de l'importance à ce qui compte pour lui, au ministère qu'il a accompli. Toutes les autres statistiques ont été inventées par l'homme, non par le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre chance d'accorder de l'importance.
Merci.
Lorsque je réfléchis au conseil, il y a une pensée qui me touche profondément. C'est que dans l'unité, dans la foi, nous recherchons la volonté du Seigneur. C'est une pensée merveilleuse qui se trouve dans le manuel.
Eh bien, merci. Et en résumé, lorsqu'un conseil, qu'il soit de famille ou de paroisse ou de branche, lorsqu'ils abordent un problème ou qu'ils en arrivent à la conclusion que oui, c'est ce que nous devons faire, il y a un pouvoir dans cette synergie auquel Lucifer ne peut pas faire obstacle. Il ne peut pas l'arrêter. Quand les membres du conseil quittent une réunion de conseil et disent que c'est ce qu'ils vont faire, et non, c'est ce que l'évêque veut que je fasse, c'est ce que nous allons faire, parce que nous nous sommes réunis en conseil et que nous avons prié ensemble pour cela, c'est ce qu'il faut que nous fassions pour édifier, pour inspirer, pour bénir la vie des enfants de notre Père Céleste. Quand cet esprit opérera dans le système du conseil dans l'Église, l'œuvre ira de l'avant et nous sauverons davantage d'enfants de notre Père Céleste. Les femmes sont aussi importantes que les hommes en matière d'œuvre missionnaire, de salut et d'histoire familiale. Et nous supprimons les obstacles dont nous avons parlé, et c'est une seule et même grande œuvre à laquelle nous nous attelons tous, réaliser l'immortalité et la vie éternelle des enfants de notre Père Céleste. Et je demande à notre Père Céleste de bénir les conseils de l'Église à travers le monde, dans chaque paroisse, dans chaque branche, dans chaque famille. Que la paix du Seigneur soit avec eux et que les manuels et ces exemples vous soient utiles. C'est là notre prière à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.